Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det snårigt.
Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son. Feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Bourges.
Eller andra och levat livet tills jag krossades en dag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949. Aujourd'hui, Stella Cadente nous présente les Dames de la Balance, de ce signe lié à la période comprise entre le 22 septembre et le 22 octobre.
Les Dames du deuxième décan de la Balance, Arlette. Passe ses jours et ses nuits allongées, elle fume des cigarettes américaines. Elle juge rapidement un livre nouveau, regrette l'ancienne manière d'écrire, pense aux amis qu'elle aura à dîner ce soir et pense à eux sans amertume, bien qu'elle apprécie nettement leur caractère, défauts et qualités. Elle appelle la bonne, discute minutieusement le menu, demande des fleurs à plat sur la table. Elle est sur le point de gronder la domestique, mais sourit et se tait, se rallonge. Elle médite ? Non. Elle se souvient de l'attitude d'un tel et d'une telle. Toi ? Ah, je me méfierais de toi, il faut que je le dise à Edgar. À l'occasion, je lui dirai son fait à Jules. Il se fout d'Edgar. Je vais arranger ça. Elle analyse la situation, fait des projets, et si on déménageait ? Ah, voyager ! Ah, mais c'est impossible. Il faut qu'Edgar soit au ministère. Et si j'invitais son ministre à dîner, qui sait ? On ferait une jolie soirée. J'aurais Marcel Meyer comme pianiste, et en lui demandant gentiment... Et puis zut, hein, pas de mondanité, j'ai horreur de ça. Il viendra un jour ici en copain, ou bien, flûte après tout, la carrière d'Edgar qu'il s'arrange. Je m'arrange bien, moi, pour avoir un intérieur gentil avec le peu qu'il gagne. Si je faisais des articles, moi aussi, ah, je serais bien capable d'écrire mieux que X ou Y qui viennent ici. Elle se redresse, fait une toilette artistique, compliquée, orientale, envoilée, se rallonge, fume, reprend un livre. Deux minutes après, elle est dans un taxi et chez une amie. On est injuste avec un tel. Comment ne l'a-t-on pas décoré ? Mais pourquoi ? Oh, si j'écrivais des articles, je vous assure que je leur dirais leur fête à tous. Et comment ? Elle se tait, ne dit plus rien, regarde, écoute, s'ennuie. Ce soir, à son dîner, qui est charmant, tout intime, elle se dira en levant un verre de champagne délicieux. Et puis après tout, la vie est bonne. Pourquoi s'en faire ? Tout le monde est d'accord ce soir. Pourquoi toujours rechercher l'équilibre ? Lorsque les amis sont partis, en se déshabillant, Elle articule nettement ses projets à Edgar, met le doigt sur les plaies de leur situation, de la situation ministérielle. Elle a des vues justes sur la politique extérieure. « Alors quoi ? Qu'est-ce que tu décides ?» dit le mari. « Eh bien, il faut déménager. » Ou tout au moins mettre la commode entre les deux fenêtres et percer une porte de communication entre la cuisine et la salle à manger. « Va voir le propriétaire. »« Moi ? Mais jamais de la vie. Je me fous trop complètement de quoi que ce soit pour bouger de mon coin. » Or, ne voilà-t-il pas qu'un beau jour, Arlette a rencontré dans un concert de musique classique et moderne une dame américaine. Et la dame et Arlette se sont prises de la plus tendre amitié l'une pour l'autre. Les caprices d'Arlette ont été jugés originalité, sa nonchalance philosophie, ses vastes projets noble ambition. La dame américaine est navrée de la médiocrité aisée de sa nouvelle amie. Elle va s'occuper d'Edgar. En effet, Edgar n'est plus secrétaire d'un ministre que voici à la tête d'une compagnie industrielle. C'est l'opulence. Arlette va donc enfin pouvoir voyager en sleeping. Mais non, elle reste allongée, fume ses cigarettes et juge sévèrement les livres nouveaux. Seulement, elle s'est mise à l'opium, un plaisir coûteux.
Those eyes.
Le cabinet de curiosité est consacré aujourd'hui à une jeune femme, décédée aux environs de 1875, et dont le masque mortuaire à la singulière beauté a été à l'origine du mythe de l'inconnu de la scène. Chargée des collections de photographies du musée Rodin, Hélène Pinet nous dit dans le catalogue de l'exposition Le Dernier Portrait. Les quelques lignes laconiques qui résument son histoire pourraient sortir de nos rubriques de faits divers. Un médecin légiste avait trouvé si beau et si énigmatique le visage d'une jeune fille repêchée dans la Seine qu'il avait demandé à un praticien d'en prendre l'empreinte. Rien n'empêchant le mouleur de la commercialiser, il la vendit dans sa boutique. C'est là que Rilke va la découvrir en 1902, lors de son premier séjour parisien. Il écrit « Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours a accroché deux masques devant sa porte. Le visage de la jeune femme noyée, que l'on moula à la morgue, parce qu'il était beau et parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait. » On raconte que le masque eut un tel succès qu'on le retrouva bientôt dans les intérieurs de la bourgeoisie et les milieux artistiques. Le mythe se forge dès lors que la littérature, inspirée par un masque mortuaire au sourire troublant, s'empare d'un fait divers dont on ne sait rien et le nourrit de fiction. C'est Jules Supervielle qui publie en 1931 L'inconnu de la Seine. La romancière allemande Hertha Paoli, qui lui consacre peu après une nouvelle inspirée du masque mortuaire qui ornait la maison de ses parents. Puis ce sont Eudon von Horvath, Louis-Ferdinand Céline, Nabokov qui lui consacre un poème en prose, Aragon qui lui offre l'écrin de son roman Aurélien. Man Ray réalise un plâtre et une quinzaine de photographies, les œuvres se multiplient, qui plutôt que d'épuiser le mythe ne cessent de l'engrosser. J'ai demandé à un de mes amis, André Lange Médard, qui m'a fait découvrir l'inconnu de la Seine, de nous expliquer son attrait pour ce masque. Originaire de Liège, sur les bords de la Meuse, André Lange Médard est l'éditeur du site Histoire de la télévision et l'auteur d'un blog, L'Alpharabiste et la Libellule.
Je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire de l'inconnu de la Seine et de toutes les modulations qu'en ont donné écrivains, poètes, artistes, cinéastes. Plusieurs livres ont été écrits sur ce mythe, les auteurs en sont, même paraît-il, jaloux les uns des autres. Depuis quelques années, l'inconnu est revenu à la mode, et les amoureux n'aiment pas la mode. Moi aussi, je m'inquiète de cette mode. Depuis que j'ai découvert sur Internet qu'un jeu de piste en virtual reality, en réalité virtuelle, était proposé aux touristes parisiens, je m'inquiète de la banalisation d'une histoire dont le charme venait en partie de son caractère délicat, secret et suranné. Il est difficile de parler d'amour, surtout d'amour pour un masque de plâtre. Comment vous dire ce que ce masque représente? Il y a dans ma bibliothèque plusieurs portraits de femmes. Il y a une grande photographie dans un cadre fané d'une de mes aïeules, Léocadie Lambert, dite Mercadie, qui était sage-femme pour le plat pays dans la campagne liégeoise et qui a exactement la même oreille médiane séparant la masse des cheveux, une contemporaine de l'inconnu, probablement. Il y a le portrait d'une autre femme, inconnue elle aussi, peinte par Raphaël Sanz-Stanzio, qui se trouve au musée de Strasbourg et qui, elle aussi, a une oreille médiane. Il y a une sirène de Paul Delvaux allongée, la tête appuyée sur un coude, et qui, elle, n'a pas peur de se noyer. Il y a un portrait en carte postale de Dora Maar, aux ongles verts, ramené de Berlin. Et il y a une photographie de Mina, assise dans un large sofa bleu, au palais de l'archevêque de Salzbourg. Toutes ces femmes me regardent avec un mélange de tendresse et de sévérité. L'inconnue de la Seine, elle, ne me regarde pas. Elle a les yeux fermés. Mais elle m'écoute. Pendant que je vous parle, le masque est là, accroché au-dessus de la porte de ma bibliothèque. Parfois, dans mes moments de solitude, je lui parle, je lui confie des secrets, comme le héros de In the Mood for Love, qui, suivant l'ancienne coutume, confie son secret dans le trou d'un arbre du temple d'Angkor, puis bouche le trou avec une poignée de terre pour que le secret y demeure scellé à jamais. La belle m'écoute en souriant, sans rien dire. Mon exemplaire du masque de l'inconnu de la scène a sa propre histoire. Je me le suis procuré en décembre 2006, la veille de Noël, rue Racine, à deux pas du théâtre de l'Odéon, au fameux magasin Lorenzi qu'évoque Aragon dans Aurélien. La vendeuse m'a expliqué que dans la tradition familiale, il ne s'agissait pas du tout du masque mortuaire du noyé, mais surtout elle m'a dit que le magasin fermerait définitivement ses portes le lendemain, que les masques ne seraient plus commercialisés qu'à partir de l'atelier d'Arcueil ou par correspondance. Cette information m'a beaucoup ému. J'étais donc le dernier à acquérir le masque de la belle inconnue, là où Michele Lorenzi avait installé son atelier boutique en 1871, l'année de la Commune de Paris. Le masque s'est vendu, dit-on, par milliers d'exemplaires. Chacun aurait son inconnu, je n'y crois guère. Toujours est-il que mon inconnu est la dernière qui soit enveloppée de cette aura du 6e arrondissement littéraire, soumis depuis à la spéculation immobilière impulsée par les grandes marques de luxe, dès lors qu'elles ont constaté que les touristes américains et japonais fréquentaient plus volontiers Saint-Germain-des-Prés que l'avenue Montaigne. J'étais venu chercher ce masque dans un moment de mélancolie, avec le souhait de me raccrocher à ce Paris d'une autre génération, et me retrouver là, comme dernier témoin, juste avant la fermeture, n'a fait qu'accroître la nostalgie. Depuis, je dis en plaisantant que je suis le dernier vrai surréaliste. Mais il m'est arrivé une chose encore plus extraordinaire. Un jour, j'ai photographié le masque de trois quarts. Je lui ai donné une teinte un peu bleutée, sombre, un peu violacée. J'étais très content du résultat qui accroissait le côté mystérieux du visage. Et je ne sais pourquoi, je l'ai posté sur mon blog. Quelques années plus tard, il y a 3 ou 4 ans, j'ai été contacté par un éditeur de Londres qui m'annonçait la préparation d'une ambitieuse encyclopédie internationale du surréalisme. Une encyclopédie en 3 volumes, coordonnée par des universitaires anglais avec un réseau international comme il se doit pour le surréalisme. Les responsables de ce magnifique projet souhaitaient utiliser ma photo de l'inconnu de la scène dans leur ouvrage. N'étant qu'un modeste photographe amateur, j'en étais très flatté. Pourquoi ma photographie plutôt qu'une de celles tirées par Man Ray pour répondre à une demande d'Aragon? Et puis, l'an dernier, au mois d'avril, j'étais à Lisbonne et j'ai reçu le tiré à part d'un chapitre de cette encyclopédie. Ma photographie de l'inconnu illustrait l'article Beauty. Que vouloir de plus dans une vie? Une photographie de l'inconnu de la scène pour illustrer l'article Beauté d'une encyclopédie internationale du surréalisme. C'est un académisme parfait. L'exacte antithèse de ce que devait être la beauté convulsive définie par André Breton. Et comme un moment magique n'arrive jamais seul, le même jour qu'arriva ce tiré à part, j'assistais à la Fondation Gulbenkian à une représentation de l'opéra Icon de Frédéric Neyrick sur un livret de Sabrina Pierre, qui est un opéra sur le mythe de l'inconnu de la scène. L'opéra a un dispositif scénique curieux, jouant de l'immédiateté de la photographie numérique. Les images des spectateurs sont projetées sur des écrans entourant une salle disposée en carré. Les spectateurs deviennent partie prenante du spectacle, du mythe. C'était bien vu, puisque l'histoire de l'inconnu est l'histoire d'une inconnue. Chacun est libre de projeter sur elle un peu de ses fantasmes, d'amour et de mort, d'Eros et le Thanatos. Je voudrais encore vous raconter pourquoi ce n'est qu'en 2006 que je l'ai découverte. Pourquoi c'est à l'âge de 50 ans passé que j'ai lu Aurélien, alors que des raisons personnelles très fortes auraient dû me conduire à lire ce roman un quart de siècle plus tôt. Mais cela fait aussi partie de mes secrets. Peut-être qu'une des raisons de ma fascination tourne autour de la peur de la noyade, vieille peur qui remonte à l'enfance. J'ai passé mon enfance dans les faubourgs de Liège et nous habitions sur les bords de la Meuse, qui est un fleuve dont la physionomie est assez similaire à celle de la Seine, même si elle n'en a pas l'aura et que Liège, évidemment, ne peut être comparée à Paris, qu'elle ne fait guère que Saint-Gé. Il se fait que face à notre appartement, sur l'autre rive du fleuve, il y avait une voie rapide. Un talus couvert d'une pelouse descendait vers le quai de halage. Il est arrivé deux ou trois fois qu'au matin, on découvrit dans les herbes de ce talus les traces noires des pneus d'une voiture qui était allée se jeter dans le fleuve. Mon père téléphonait à la police pour signaler ces accidents. Des plongeurs et des grues venaient repêcher le véhicule et ses occupants. Le lendemain, on avait quelques éléments d'information dans le journal local. Évidemment, je n'ai jamais vu les corps de ces noyés ou de ces noyés, mais cela m'a marqué durablement et j'en ai souvent rêvé. À la fin des années 90 encore, il y a eu un accident sur le pont de Fragnier qui est à Liège le bon pont construit en 1905 à l'occasion de l'exposition universelle, dans le style du pont Alexandre III de Paris. Une voiture conduite, paraît-il, par une femme, a percuté une des rambardes, décorée avec de magnifiques têtes mythologiques en bronze doré. Pendant plusieurs années, jusqu'aux travaux de rénovation du pont, la rambarde a gardé la cicatrice de ce médaillon manquant. Et chaque fois que je traversais le pont, je pensais à cette femme noyée dans sa voiture. Puis aussi, lorsque j'habitais au centre de Liège, en traversant la passerelle qui enjambe le fleuve, j'ai vu un jour trois policiers qui examinaient, sans y toucher, un imperméable de femme, vert clair, étalé sur le sol du quai de halage, comme la silhouette d'une absente. Il était évident pour moi que cet imperméable avait été abandonné là, par une femme, avant de se jeter à l'eau. La hantise de la noyade est donc chez moi là, très forte. Au fond, je n'ai pas besoin de l'histoire de Robert Schumann se jetant dans le Rhin, ni de telle nouvelle érotique et nécrophile d'Anaïs Nin évoquant l'inconnu de la Seine, ni de la noyée de Gainsbourg, ni de la Drowned Girl de David Bowie, ni des images de Laura Palmer dans son sac de plastique pour percevoir cette hantise. Je ne crois pas que ce qui m'attire dans le masque de l'inconnu soit l'histoire supposée de sa noyade, et toutes ces histoires de morgue sur le lieu de la cité qui ont intéressé les romanciers, les historiens ou encore Peter Greenaway ne me séduisent guère. Peu importe pour moi que l'inconnu se soit noyé dans la Seine ou dans le canal de l'Ourcq. Son visage de joconde du suicide dont parlait Aragon n'est pas ce qui m'attire en elle. Je suis plus sensible à l'histoire alternative, celle de la jeune modèle allemande de passage à Paris et qui aurait accepté le moulage de son visage pour que les peintres parisiens puissent en garder la trace. Le masque pour vaincre l'absence. Et pour moi, l'inconnu de la Seine, c'est aussi la délicate Bérénice du roman d'Aragon. Pour Bérénice, l'inconnu est une concurrente. Elle embrisse le masque, offre à Aurélien un moulage de son propre visage. Plutôt que d'éplucher, comme certains l'ont fait, les registres de la morgue de Paris, j'ai préféré, lorsque je vivais à Strasbourg, chercher les traces de celle qui fut le modèle de Bérénice, la mystérieuse Denise Lévy, traductrice des romantiques allemands, dont Aragon fut éperdument amoureux, mais qui ne lui répondit point. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu ses lettres. En définitive, la belle inconnue, c'est le visage d'un amour impossible, ou mieux, des amours impossibles, de mes amours impossibles. Lesquels ? Je ne vous le dirai pas. C'est à elle qu'il faut le demander. C'est elle qui connaît mes secrets.
T'en souviens-tu la scène? T'en souviens-tu comme ça me revient la rengaine de quand on n'avait rien, de quand on avait pour tout bagage tes deux quais pour m'y promener, tes deux quais pour y mieux rêver. Tu étais mes voyages et la mer. Tu étais mes voiliers, tu étais pour moi les paysages ignorés. Je te disais la Seine, qu'on avait les yeux de la même couleur quand j'avais de la peine, quand j'égarais mon cœur. Quand je trouvais la ville trop noire, tu dorais des plages pour moi. Tu mettais ton manteau de soie pour moi, qui ne voulais plus croire. Et pour moi, pour pas que je me noie. Tu faisais d'un chagrin une histoire, une joie. Ils te diront la Seine, que je n'ai plus le cœur à promener, ou que si je promène, c'est loin de ton quartier. Ils te diront que je te délaisse, et pourtant je n'ai pas changé, non, je ne t'ai pas oublié, mon ami. De toutes les tendresses, j'ai gardé dans mes yeux tes reflets, j'ai gardé tes couleurs, tes caresses pour rêver. T'en souviens-tu la Seine? T'en souviens-tu comme ça me revient la rengaine? De quand on était bien. Et si j'ai vu d'autres paysages, tes deux quais m'ont tant fait rêver. Attends-moi, j'y retournerai, tu seras mon premier grand voyage. Et le port où je viens relâcher, fatigué de tant d'autres rivages oubliés. T'en souviens-tu la Seine? T'en souviens-tu?
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
mars 1958, bulletin numéro 17. Notes diverses sur la Chine. Le bonheur d'être Ouïghour. La radio de Pékin, diverses émissions, surtout dans ses services en anglais et en espagnol, poursuit la diffusion de sa longue série « Les nouvelles nationalités de la Chine ». Il ne s'agit pas de nationalités nouvelles au sens absolu du mot, mais de textes destinés à mettre en valeur l'effort fait par le régime actuel de Pékin en vue de développer les fort nombreuses petites nationalités indigènes de la Chine, voire précédemment des comptes rendus d'écoute de chroniques avec les Li, les Miao, etc. Nous en sommes peut-être à notre 30e ou 40e écoute depuis juin 1957 de cette série de textes. Il nous est évidemment impossible de juger dans le détail les mirifiques propos sur la prospérité nouvelle de ces peuples, qui sont purement du verbiage ou si on peut en garder quelque chose. Ce qui est certain, c'est que ces émissions prouvent que, petit a, le gouvernement de Mao tient à appeler à l'existence de ces peuplades halogènes, dont certaines sont proto-chinoises. Petit b, les abondantes diffusions de la musique populaire traditionnelle de ces populations apportent incontestablement quelque chose de nouveau dans les radios mondiales. Petit c, la confrontation entre tous ces textes permet des recoupements. Tout d'abord, progressivement, à partir de septembre 1957, on a pu constater que Pékin évite de parler des minorités mongoles dans le nord-est extrême de la Chine, évite davantage encore d'insister sur les populations mongoles qui font tampon entre la Russie et la Chine. Tout se passe donc comme si, là, Pékin avait tacitement admis une zone d'influence russe. petit dé. Surtout, il y a le phénomène suivant qui paraît d'autant plus remarquable que, par ailleurs, la radio de Pékin, ces dernières semaines, abondait en textes célébrant Nasser, la nation arabe unifiée, la cause arabe en général. La minorité nationale la plus forte en Chine est, de très loin, la minorité musulmane. Au moins 50 millions, disent certains sinologues. Or, alors que déferle une masse de textes sur les autres minorités nationales asiatiques, et même proto-asiatiques, il n'est jamais question de la minorité musulmane, du moins à ma connaissance. Mais cette réserve est superflue, car il est fort improbable que même un début d'insistance sur ce point ait pu m'échapper.
Vous pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Vous avez entendu, par ordre d'apparition, Monica Zetterlund, Stella Cadente, accompagnée par Gabriel Fauré, André Lange-Médard, accompagné par Antoine Duhamel, Anne Sylvestre, Marc Mercier et, en ce moment même, Poïsek Korolak. Cela a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.